Radio Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Tati Mampoukou. Okapi.
Nous voici dans la deuxième partie du magazine Okapi Service. Que faut-il faire pour mieux préserver les limites des aires protégées de la RDC? Nous en parlons avec deux invités. Le premier, c'est Hervé Mukulu. Il est journaliste d'investigation. Il va intervenir depuis la ville de Butembo. Monsieur Hervé, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tout le monde.
Nous aurons comme deuxième personne ressource dans cette deuxième tranche du magazine Okapi Service, le professeur Amundala Drazo. Il est spécialiste en faune sauvage. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez-nous vos questions au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous attendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou vous présente et coordonne ce numéro sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Gaston Vezolo réalise cette émission et Willem Lungaba s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ce magazine de Fête Société de Radio Okapi.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. En RDC, les parcs nationaux et autres aires protégées apparentées sont victimes des spoliations. L'une des causes de cette situation, c'est le manque des marques apparents, des marquages apparents ou l'ignorance des limites officielles par les habitants limitrophes. À Benyonor Kivu, par exemple, le quartier Congo Yassika est en pleine expansion à proximité du parc national de Virunga. Selon les acteurs de la société civile environnementale, l'insuffisance des espaces pour pratiquer les champs familiaux et la croissance démographique réveillent les débats sur les limites des aires protégées de la RDC. Que faut-il faire pour mieux préserver les limites des aires protégées de la RDC? Nous en parlons dans cette deuxième tranche du magazine Okapi Service avec deux invités. Le premier, c'est le professeur Amundala Drazo. Il est spécialiste en faune sauvage. Et notre deuxième invité, c'est un journaliste. Il s'appelle Hervé Mukulu. Il est journaliste d'investigation. Il a réalisé un reportage au niveau de la ville de Beni, au nord Kivu, dans les périmètres, dans les limites du parc national de Virunga. Professeur Amundala, d'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par une aire protégée?
Une aire protégée est une étendue. D'abord, bonjour, monsieur le journaliste.
Bonjour.
Excusez-moi d'entrer directement.
Je vous en prie, professeur.
Oui, une aire protégée est une étendue consacré pour la conservation et qui est mis à part pour faciliter la préservation de la biodiversité. Parce qu'au-delà de la préservation de la biodiversité, il y a également des services écosystémiques, n'est-ce pas, que ces aires protégées donnent à la communauté. Mais donc, c'est une étendue mise à part avec une personnalité juridique et bien circonscrite. Parce que si vous voyez la loi numéro 37 2008, du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées, à son article 10, il dit ceci. L'acte portant la création d'une aire protégée précise notamment sa localisation, les limites et la superficie de la zone concernée. Mmh. Il y a bien évidemment d'autres choses, par exemple les fonctions qui lui sont assignées, les activités qui sont autorisées ou prohibées, les modalités de participation de populations riveraines à la gestion de ces aires protégées, mais aussi l'organe de gestion. Mmh. Et donc, une aire protégée, c'est une entité mise à part pour la préservation de la biodiversité et on prend en compte tous les éléments dont je viens de faire allusion ici, n'est-ce pas, les activités qui doivent être effectuées, etc., etc. Voilà, de manière très brève, comment nous pouvons définir une aire protégée.
Vous avez fait allusion aux services écosystémiques, lesquels par exemple, professeur?
Il y a beaucoup de services écosystémiques, par exemple la séquestration des carbones, parce que dans une aire protégée, vous avez la forêt, il y a une étendue forestière. Et malheureusement, aujourd'hui, l'impression que j'ai, c'est que quand on parle de la forêt, on voit seulement les arbres. Or, dans la forêt, c'est un écosystème dans lequel vous avez les arbres, les animaux, les micro-organismes, etc. Alors, toutes ces composantes font partie de ce qu'on appelle forêt. Et les services écosystémiques, par exemple, c'est le fait à partir de la photosynthèse, les plantes séquestrent le carbone et avec fusion, avec des molécules d'eau qui existent dans l'atmosphère, ils dégagent alors le CO2. N'est-ce pas? Et alors, il dégage, je vais dire, l'oxygène qui permet à l'homme de pouvoir respirer correctement. Et ça donne un milieu vraiment de vie, quoi. Le milieu où l'homme peut vivre correctement. Il y a beaucoup plus de services écosystémiques que les aires protégées peuvent donner. N'est-ce pas? Les aires protégées donnent la nourriture, les aires protégées donnent les médicaments. C'est ça même la source de vie pour l'homme. Et donc, si l'homme arrive à raser toutes les aires protégées, donc il est en train de se raser lui-même, n'est-ce pas? Parce que la conservation, les aires protégées sont justement créées pour assurer le bien-être des communautés. Ce ne sont pas seulement les communautés locales, parce que comme nous savons, les COD qui viennent de partout à travers le monde, les aires protégées qui sont ici à Kisangani, qui sont dans le nord, ne donnent pas seulement des solutions aux problèmes des gens qui vivent dans le nord qui vous. Parce que les COD qui sont produits à Kinshasa, par exemple, dans les usines, etc., ils sont entre autres résorbés, n'est-ce pas, par les aires protégées et les arbres qui sont dans d'autres milieux. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit pouvoir conserver, parce que les avantages, c'est universel, c'est pour tout le monde.
Merci beaucoup pour ces détails, professeur. Mais en même temps aussi, ces aires protégées aujourd'hui, certaines aires protégées, je dirais, telles que les parcs marins des mangroves, les parcs nationaux des Virunga, font face à la menace, à la pression extérieure des communautés locales qui vivent à proximité de ces aires protégées. Ça, c'est une réalité, professeur. Professeur Amundala? Malheureusement, on va essayer de lui relancer. Je me tourne vers Hervé. Hervé Mukulu, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, Tati.
Voilà.
Les autres auditeurs.
Vous avez réalisé un reportage. Bonjour. Vous avez réalisé un reportage dans les limites du parc national de Virunga au Nord Kivu à Beni. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé cette production?
Oui, en fait, ça fait principalement autour de 4 ans que je réalise principalement des investigations dans l'espace Virunga sur le défi de la préservation du parc national de Virunga. Les deux derniers parlent justement des défis des limites, spécifiquement à Kasindi et dans les autres régions. Je crois que la principale motivation reste la compréhension de savoir pourquoi il y a toujours ces sérieux problèmes entre les services de la conservation, à savoir l'ICCN et les populations riveraines. Au tout début, je pensais aussi comme tout le monde que c'était la population qui agressait les parcs, Mais quand on s'investit et dans ces genres de reportages, quand on entre dans les fins fonds des textes et des témoignages, on comprend que le défi est assez profond. Il n'y a pas qu'une agression de la population vers le parc, mais il y a des problèmes dès la base. De la création du parc, il y a eu de sérieux problèmes, mais qui se sont notamment révélés ces deux dernières décennies. Est-ce que je veux parler? Oui. Je vais parler spécifiquement du parc national de Virunga, que vous connaissez, c'est le plus vieux parc d'Afrique, créé en 1925, mais sa création a été progressive jusqu'à 1935, là a été augmentée jusqu'à arriver dans le Grand Nord ici chez nous. Et le premier défi, d'ailleurs, le plus grand défi lors de la création du parc national de Virunga, c'était l'effet de ne pas avoir de compromis avec les populations locales. Donc, les autorités à l'époque, les Belges, les colons, demander aux populations de se déplacer d'une zone vers une autre, la population pensant qu'elle va revenir dans cette région après des choses comme la maladie du sommeil, qu'elle soit éliminée et qu'on sort. Ce n'est qu'après que la population vient constater que cette zone, elle est déjà annexée au parc et c'est désormais un domaine réservé. Voilà où a commencé tous les problèmes. Parce que quand on parle spécifiquement du quartier Kongo-Yassika à Kasindi, cette problématique-là, aujourd'hui, il y a la lignée du chef Oviru Munane qui s'est dit que cette partie appartenait à son... c'est une partie de son pouvoir coutumier. Ils ont été enlevés de la région juste en attendant que l'administration combatte la maladie du sommeil. Mais ce n'est qu'après qu'ils ont compris que non, on dit que cette partie appartient au parc. Et quand vous vous rendez compte du sérieux dossier, vous allez constater que les négociations sur les cessions des limites du parc n'ont commencé qu'après. C'est autour des 35-37 qu'il y a eu des négociations maintenant entre le pouvoir et les chefs coutumiers pour céder certains territoires, alors que d'autres n'ont pas eu à les faire avant. Et cela est demeuré un problème jusqu'au niveau où, à l'époque, quand la colonie est finie, autour des années 60, certains chefs coutumiers ont voulu réveiller ces genres de dossiers. Et après, ils se sont rendus compte qu'une certaine dictature s'installe autour des années 75. Ils se sont tus. Et c'est plutôt autour des années 2000, quand la rébellion a commencé, que le vrai dossier maintenant s'est réveillé. Avec la rébellion, il y a eu ces grands déficits entre qui doit donner les terres, parce que avec la rébellion, certaines populations ont dû quitter leur village carrément.
Se sont déplacées,
se sont rapprochées vers certains centres urbains. Et dans la région de Kasindi, il y a que Kasindi comme le plus grand centre. Et à Kasindi ne pouvait pas accueillir beaucoup de gens. Ils ont été obligés d'entrer plus dans les parcs. C'est ce qui a créé ces quartiers Kongo-Yassika, qui pour l'ISSN appartient au parc et qui pour les chefs coutumiers, c'est une entité de ce village. Donc, et quand on interroge les textes sur la création du parc, vous comprenez qu'il y a un flou sur les limites. Donc, c'est en essayant de comprendre cette problématique que l'on a compris qu'il y a un pouvoir coutumier qui a été délaissé, qu'il y a un pouvoir administratif de la rébellion qui s'est installée dans la région, qui en a profité pour vendre les terrains à ceux qui en avaient besoin. Et il y a l'ISSN qui s'est dit aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas céder des terres parce que ces terres leur appartiennent. C'est en voulant comprendre tous ces défis, et plus encore aujourd'hui, il y a des agglomérations qui grandissent et des populations qui n'ont plus de terres où cultiver. Vous savez que nous survivons dans la région principalement grâce à l'agriculture. Et c'est ce qui fait tous ces grands défis. Et quand on lit cette question, on a tendance à croire que la population agresse les parcs, mais c'est parce que le parc n'est pas encore assez utile pour cette population pour respecter. Alors on ne peut pas mourir de faim
alors qu'il y a des ressources,
qui n'est pas utile, qui est là juste pour être sauvegardée et qui s'est
et qui sert d'ailleurs aujourd'hui même des cachettes pour les milices et consorts. Alors, c'est ce qui fait toute cette problématique et c'est ce que je retransmets à travers ces investigations.
Oui, Hervé, chers collègues, on vous garde en ligne. Hein, le temps de retourner chez le professeur Amundala Drazo, qui est spécialiste en faune sauvage. Professeur, vous partagez l'avis selon lequel les parcs de la RDC sont aujourd'hui exposés à la pression démographique?
Tout à fait. J'ai suivi vraiment avec grand intérêt l'intervention de collègues là-bas, qui a dit qu'au début, la création des parcs était plutôt de manière policière. On s'imposait, et les gouvernements s'imposaient, etc., et il y avait les aires protégées qui étaient installées. Sans compte, évidemment, de la croissance démographique. Ça dépend parfois de la vie des autorités locales, des communautés locales, et ça pose des vrais problèmes jusqu'à aujourd'hui. Je crois que l'article dont je venais de faire allusion ici essaie de montrer clairement ce qu'on doit pouvoir faire. Ça veut dire consulter les communautés locales, on doit trouver des possibilités pour réduire, n'est-ce pas, la pression, non seulement sur l'espace, mais aussi sur les ressources naturelles. Ce qui n'a jamais été pris en compte, en tout cas dans la gestion de la gouvernance actuelle des aires protégées. Il se pose un vrai problème. Et ça, c'est pratiquement dans toutes les aires protégées du pays qu'on a ces problèmes. Et aujourd'hui, davantage encore, on a commencé à remarquer que c'est dans les aires protégées que les groupes essaient de mettre en action. Et ça devient un autre problème. Ça soulève des questions qui demandent beaucoup plus de d'intelligence, beaucoup de compétences pour voir les problèmes. Malheureusement, l'impression que nous avons, c'est que les
professeur Amundala
reste vraiment un autre problème.
Professeur, si vous êtes dans un local, ça serait mieux que vous puissiez sortir dans la cour, hein, pour améliorer la qualité de l'audition. Il y a la communication qui est en train de se dégrader. Sortez dans la cour, ça va nous aider à stabiliser la qualité de l'écoute. Que faut-il faire, hein, pour mieux préserver les limites des aires protégées de la RDC? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099 706 99 41.
L'information se retrouve aussi tous les jours sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Nous donnons la parole à notre premier auditeur. Hein. Il nous appelle depuis la ville de Lubumbashi. C'est Jérémy Mwamba, à qui nous disons bonjour.
Bonjour, M. Tati. Bonjour également à l'invité. Je pense que pour protéger, n'est-ce pas, nos aires, alors je pense qu'il faut que l'État congolais, via le gouvernement, puisse prendre les choses à bras de corps, parce que c'est inconcevable pour ne pas comprendre comment la RDC, notre pays, hein, la République démocratique du Congo, continue toujours à être victime dans ce temps. Vous savez que ce parc-là constitue un lieu attractif où on peut peut-être gagner beaucoup d'argent en termes de tourisme, etc. Nous avons tout ce qu'il faut pour que notre pays retrouve, même en termes de budget de notre pays, ça peut contribuer. Vous savez que nous avons perdu beaucoup d'espèces, toujours à cause de ce mauvais système. Alors moi, je me dis que d'abord, l'État congolais, dans ce prérogative, doit chercher, n'est-ce pas, à mettre une politique idoine. Autant qu'il envoie les militaires au front pour pouvoir préserver, n'est-ce pas, l'intégrité de notre pays, de même, il doit faire pour tous nos aides actuellement qui sont en train d'être menacés et ils sont laissés, n'est-ce pas, donc au grand bénéfice de ceux-là qui combattent notre pays. Moi, je pense qu'il faut que l'État congolais, parce que pour entrer en droit de quelque chose, il faut défendre la cause. Ça veut dire mettre une politique en cause pour pouvoir défendre ne plus que des limites. Les conflits des limites, c'est comme nous avons aujourd'hui. Nous sommes victimes de beaucoup de. Il n'y a que la RDC qui est victime sur tous les plans. Alors, je pense que nous devons chercher nous-mêmes à placer soit mettre des garde-fous, mettre des clôtures qu'il faut, ou soit des murs qu'il faut pour pouvoir enrayer toutes les vérités qui viennent de l'extérieur, et ça pourrait constituer un grand palliatif parce que nous sommes le plus longtemps possible victimisés. Alors, il faut maintenant que nous puissions entrer dans nos droits, chercher à défendre notre territoire sur tous les plans, y compris les airs que nous avons, qui doivent être conservés. Et il faut peut-être chercher à chercher comment commencer par voir la RDC, quelles sont ses limites. Ça, c'est un. De deux, connaître qui sont ceux-là qui constituent notre menace. C'est ce qu'il faut pour pouvoir maintenant mettre une politique en place, comment chercher à défendre l'honneur de notre pays, parce que tout ce que nous avons, le parc regorge des espèces rares que notre pays regorge, que d'autres pays n'en ont pas. Et ce qui veut dire que ça constitue un bénéfice pour nous et une richesse pour notre pays. Et aussi longtemps que nous ne savons pas comment les gérer, comment les entretenir, c'est pourquoi nous devenons plus faibles face à nos ennemis, à tous ceux-là qui voudront peut-être chercher à pouvoir s'accaparer de ce qui n'est pas à part qui n'est pas ailleurs.
Jérémy Mamba, s'il vous plaît, revenons sur les sujets. Le problème, c'est la pression qui subit les aires protégées, la RDC, par les communautés locales, parce qu'avant que l'on puisse délimiter ces aires protégées, il y avait des villages dans ces entités. Et donc, comment faciliter au fait cette cohabitation entre les communautés qui vivent à proximité de ces aires protégées?
Et il faut peut-être unir les deux. Nous avons vu le chef d'État ailleurs à le faire, par exemple, avec les TK et les AKA. Nous voudrions à ce que c'est l'État, c'est dans les prérogatives. Si l'État l'a fait, ça réussit peut-être.
Merci beaucoup pour ta proposition.
Si nous laissons les communautés s'emmerder, ce qui veut dire que c'est au grand désavantage de notre pays. Il faut d'abord commencer par mettre tout ce peuple ensemble, toutes ces communautés ensemble, parce que lorsque les communautés se divisent, il y a des problèmes, ce qui veut dire que l'un ne voudra pas reconnaître l'autre. Or, nous sommes dans un même pays, nous devons regarder dans la même direction, nous devons partager les mêmes intérêts, les mêmes aspirations. Il revient, lorsque les communautés vont au-delà des ententes, il y a les responsables qui sont sur le terrain, il y a les ministères, par exemple, de cité, il y a ceux-là qui sont censés assurer la sécurité pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre ces gens ensemble, parce que nous sommes dans un même territoire, malgré qu'il y a des limites, il faut, là où les limites de l'un s'arrêtent, on doit connaître que c'est là que la liberté de l'autre commence. Si on
Merci
met
beaucoup.
Les gens ensemble, les gens se regardent.
Merci beaucoup, M. Jérémy. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Cette fois-ci, nous allons à Bounia pour donner la parole à Thomas, à qui nous disons bonjour. Monsieur Thomas, vous êtes en ligne? Malheureusement, on a perdu Thomas. On va tenter de rappeler Monsieur Thomas, qui a appelé depuis la ville de Lubumbashi. Professeur, comment réagissez-vous aux commentaires de Jérémy Mwamba de Lubumbashi?
Très bien. J'ai suivi les commentaires de nos amis de Lubumbashi. Je dois dire qu'il a raison. Il y a vraiment des choses que l'État doit faire et aussi que les communautés locales doivent faire. Je donne un exemple. Pour que les limites des aires protégées soient respectées, il faut d'abord matérialiser ces limites-là. Parce que dans la plupart des aires protégées de chez nous, il n'y a pas on a matérialisé les limites pour qu'on sache à partir d'ici comment c'est les aires protégées, ou une protégée. Et ça reste flou, ça reste flottant. Je donne l'exemple de la ville de Kisangani. Nous avons un jardin zoologique. Ces jardins zoologiques-là, quand vous regardez un texte, on vous parle de 89 hectares, d'autres textes de 4 hectares. Donc c'est flou. Ça, c'est de deux. Les communautés locales n'ont pas été suffisamment civilisées. Les aires protégées ailleurs, vous allez voir les communautés locales, lorsqu'ils tirent des dividendes, par exemple, dans l'écotourisme, etc., c'est cette communauté locale elle-même qui protège les limites. Chez nous, si vous posez des questions, par exemple, à certains hommes de droit, etc., qui sont appelés à juger, par exemple, la criminalité faunique, ben, ils vont vous dire, mais parce que quelqu'un a tué un éléphant seulement, on peut le mettre en prison pendant 5 ans ou quoi. Parce qu'eux-mêmes, ils ne voient pas la valeur de cela. Si vous arrivez à d'autres pays, les gens viennent visiter vos animaux et ils payent. Et les dividendes sont donnés aux communautés. À ce moment-là, les communautés elles-mêmes vont voir l'importance de ces aires protégées et ils vont facilement protéger ces limites. Mais dans les camps contraires, ça sera difficile. Donc, il faut réduire la pauvreté des communautés autour des aires protégées, en leur donnant le moyen de vivre indépendamment, n'est-ce pas, des ressources qui se trouvent dans les aires protégées, mais aussi faire un zonage correct, de manière à prévoir, par exemple, aujourd'hui nous sommes à plus d'un million d'habitants dans la ville de Kangani, dans 10 ans, il y a un problème d'espace. Déjà, à partir de maintenant, il va falloir commencer à regarder de plus près comment on va pouvoir gérer ces problèmes d'espace, parce que la population va continuer à croître. Et il faut donc prévoir toutes ces choses pour que toutes les aires protégées que nous avons périssent. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'ai à ce niveau, les commentaires que je pouvais faire. Donc, je suis tout à fait d'accord avec les commentaires d'autres collègues qui venaient de parler.
Monsieur Hervé Mukulu, vous avez mené les enquêtes au niveau du quartier Congo-Yassika, dans la ville de Beni, au nord Kivu. Dites-nous, ce quartier ne cesse de s'agrandir, non loin du parc?
Oui, il ne cesse de s'agrandir. C'est les quartiers Congo-Yassika, c'est dans la cité frontalière de Kasindi, la cité entre la RDC et l'Ouganda. Et ce quartier se trouve dans cette cité se trouve dans une zone névralgique où la situation sécuritaire est toujours précaire chez nous ici, comme vous le savez. Donc, au fur et à mesure que les populations fuient les zones intérieures pour chercher un peu de sécurité dans les centres urbains. Donc, Kasindi n'a pas d'autre choix que de placer certaines populations dans ces quartiers Congo-Yassika, alors que le chef coutumier eux-mêmes réclament. C'est pourquoi les défis sur les limites des zones et des aires protégées, surtout principalement au Kivu, devraient avoir plusieurs orientations. Et moi, je pense de prime abord que ce qui se fait en ces temps ici n'est pas totalement la solution appropriée. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait, c'est de trouver les limites légales et de mettre du fil barbelé entre les zones de la population et le parc. Alors que moi, quand je réalisais ces genres d'investigations en posant la question, est-ce qu'on peut voir dans 10, 20, 50 ans, quelle serait la vraie solution, la solution la plus idoine? Elle n'est pas seulement monodirectionnelle. Parce que je crois que la première et la plus grande est qu'il faudra qu'on y arrive à déterminer quelle partie du parc devrait être désaffectée. Il faudra qu'on arrive à trouver des portions du parc à désaffecter du parc, non pas seulement pour trouver des endroits où ériger les habitations, mais aussi pour trouver des endroits où mettre des cultures et en plus établir des zones de chasse. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas interdire la chasse de tout animal sauvage. Tous les animaux sauvages ne sont pas à danger.
Non.
Tous les animaux sauvages ne sont pas à danger. Il faut mettre des zones de chasse pour que au moins la population puisse avoir à une certaine période accès à certains animaux qui sont tellement aussi dans notre culture. Et à cela, il faut aussi ne pas oublier de désaffecter surtout les zones qui sont limitrophes avec les pays voisins, parce que le parc aujourd'hui, s'ils ne nous sont pas encore utiles, c'est parce que c'est devenu des cachettes des milices. Et ces milices qui ne sont pas nécessairement de notre pays, qui nous viennent de pays voisins. Donc si on arrive à désaffecter des bonnes portions qui sont limitrophes entre nos pays et les voisins, ça peut nous permettre de militariser sans s'inquiéter à ce que le militaire puisse détruire une zone du parc. Parce qu'elle sera désaffectée, et militariser cette zone frontalière peut permettre de sécuriser notre parc pour que notre parc soit une source de financement. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est porté à la protection du parc, parce que le parc ne sort presque à rien aux populations riveraines. Et c'est vrai qu'il y a des activités connexes au parc qui aujourd'hui ont des effets, mais qui ne sont pas encore
lesquelles,
assez
par exemple,
palpables.
Lesquelles par exemple? Oui, on a développé l'élevage autour des villages.
Oui, on peut parler des barrages d'énergie Virunga et de la société Énergie du Nord Kivu. Ce sont des centrales hydroélectriques qui aujourd'hui fournissent Goma en énergie, Butembo, Beni, mais c'est quelle portion de la population? La grande majorité de la population ne peut même pas se permettre de se payer un abonnement.
Qui plus encore, qui va utiliser cette énergie-là pour cuire son repas? C'est encore assez cher. Et ce n'est réservé même pas à une petite portion de la population. Aujourd'hui, je ne sais pas si la population du Grand Nord, donc la région de Boutembo-Béni, si elle ne s'était pas appropriée la culture de certains arbres comme l'eucalyptus, je ne sais pas s'il y aurait quel arbre encore sauvage dans la région. Donc, il faudrait que l'on fasse un plan qui puisse permettre à ce que toutes ces activités-là soient concoctées. Oui, les centrales hydroélectriques aujourd'hui nous apportent beaucoup, mais cette énergie est encore chère pour pouvoir servir même les villageois, les riverains du parc, ceux qui entrent dans le parc pour nous chercher la braise, qui coupe le bois pour nous faire de la braise, parce que la quasi-majorité du charbon de bois utilisé à Ville de Goma et dans des villes comme Bénieux et Boutembo, ce sont des bois qui viennent du parc. Alors que INAF Project vous a fait un rapport en 2016 que le business du charbon du bois représentait autour de 1 million de dollars l'année uniquement pour Goma. Vous voyez que c'est un grand défi. Alors que si le gouvernement pouvait soutenir certains entrepreneurs qui ont des grandes concessions pour qu'ils plantent des essences d'arbres qui poussent facilement, ça peut nous être deux fois utile, parce que le bois, c'est le bois d'œuvre dans notre région. Et si un entrepreneur a une grande concession, il peut aussi bénéficier avec les services
systémique.
Comme les crédits carbone et consorts, mais le bois, on ne peut pas s'en passer pour quoi que ce soit. Nos villes sont en pleine construction. Goma, il y a des quartiers entiers qui sont construits seulement avec des maisons à plage. Si dans la région ici, il n'y avait pas d'électricité, on ne sait pas s'il y a encore, il y aurait quelle essence. Donc, il faut vraiment un plan qui ne se limite pas à ce que les autorités soient seulement trop strictes. On se dit, c'est ça la limite du parc, c'est ça, c'est là que l'on doit rester. On doit voir la vision des 50 ans, parce que le problème, ça se pose depuis 1935. Aujourd'hui, on est à 2024. Ça fait un siècle que le parc de Virunga existe et personne, je ne vois pas quelle partie de la population s'est dit avoir bénéficié du parc comme il le fallait.
Oui, Hervé, mais alors, quelles sont au fait les grandes préoccupations majeures au fait de la population qui vit autour, à proximité de ces parcs-là? Est-ce qu'ils connaissent la portée, l'importance de ces terres protégées et quel est leur souhait, parce que le chef coutumier estime que son village se trouve dans l'enceinte du parc?
Oui, monsieur Tati, je crois que c'est que j'ai appris de la population. Tout le monde connaît l'importance de préserver un parc, parce que les vieilles personnes que nous avons rencontrées à Kassine vous dit, quand nous sommes arrivés ici à 2000, on voyait des animaux sauvages, des éléphants, des lions juste à 2 mètres. Aujourd'hui, on n'en voit plus. Peut-être que dans 15 ans, 20 ans, nos enfants aussi seront obligés de ne le voir qu'à la télé. Donc tout le monde a besoin de la préservation de ces animaux. Mais il y a un besoin plus pressant que la préservation à long terme, c'est la faim, le ventre. Quand on a un ventre vide, on ne peut pas savoir préserver quelque chose qui n'est pas tellement utile. Donc, les besoins pressants de la population riveraine du parc aujourd'hui, c'est de trouver où habiter et où cultiver. Et ce n'est pas impossible si on arrivait à désaffecter une partie du parc pour permettre à ce que la population puisse trouver ces deux endroits-là et ne pas les obliger d'entrer clandestinement dans des zones où se trouvent maintenant les animaux qui sont vraiment menacés d'extinction. Donc il faudra qu'on voit des deux côtés ce qu'il faudra faire pour trouver cette solution idoine-là. La solution qui s'est fait aujourd'hui est découvrir les vraies limites du parc et mettre là-bas des fils barbelés. Moi, je crois que c'est une solution trop livresque et qui ne va pas tenir pendant les siècles, jusqu'à la fin des siècles.
Hervé Moukoulou, nous vous gardons en ligne. Hein. On retourne vers le professeur Amundala Drazo. Il est spécialiste en faune sauvage. Pensez-vous, professeur, que les activités alternatives autour et à proximité des aires protégées peuvent réduire la pression que les communautés locales exercent sur les écosystèmes des aires protégées, professeur?
Oui, merci beaucoup. Je suivi vraiment les passions de notre ami du Nord Kivu. Je dois dire que je ne suis tout à fait d'accord avec l'idée de désaffecter une parc à l'heure actuelle. Pas tout à fait d'accord dans la mesure où notre pays, a promis d'accroître la superficie qui se dédiait aux aires protégées. Et donc maintenant qu'il faut faire, il faut essayer de concilier la conservation de la biodiversité et la présence des communautés locales. De quelle manière les faire? Il parle de problèmes dans des espaces pour les champs. Si on arrivait à rendre l'agriculture durable, mais parce que le problème aujourd'hui, l'agriculture sur brûlis pose des problèmes. On prend des très grandes étendues et on bouge à tout moment. Or, si on arrivait à sédentariser l'agriculture, n'est-ce pas, en utilisant la petite portion des terres qu'elle a, on peut continuer à produire, n'est-ce pas, et on garde les mêmes espaces. Deuxièmement, quand on dit que ça ne donne pas encore des fruits, mais l'oxygène que nous avons, vous savez que dans d'autres pays, les services écosystémiques sont trop faibles, alors que chez nous, ça, nous avons encore garanti la. C'est un problème. Le changement climatique, le changement climatique est quelque peu accueilli cause de ces aires protégées. C'est qu'il fait, il a parlé de l'insécurité. Je suis d'accord, mais on dit qu'à un moment donné, il y avait une structure qui avait été créée, qu'on appelle Corps PPM. Et donc, c'est un groupe de militaires qui devait justement essayer de mettre l'insécurité dans toutes les aires protégées. Et donc, ce problème, on a déjà des solutions par rapport à ces. Sécurité. Les corps PPM a été créé justement, c'est un groupe de militaires qui devait être déversé au sein des aires protégées pour sécuriser ces aires protégées. Et je pense qu'il y a même encore des solutions par rapport à ça. Parce que si on doit dire on va désaffecter, donc c'est dans toutes les aires protégées du pays, il faut procéder à ça. Je pense qu'on est encore arrivé à ces niveaux. Il y a toujours moyen de trouver des solutions durables. Parce que j'ai dit l'agriculture durable. On peut faire des états. On peut faire des champs sur les mêmes étendues pendant des décennies, etc. Donc, on n'a pas besoin à chaque fois d'étendre la superficie des champs. Si on donne des moyens, on a des agriculteurs. Vous savez, il y a des choses dans le pays qui ne marchent plus. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait des monicoles.
Oui, professeur, on va vous relancer par appel normal. Hein. La liaison n'est pas excellente avec WhatsApp, donc on va couper puis vous rappeler par WhatsApp. Okay. Entre-temps, on donne la parole à la deuxième vague des auditeurs hein, qui appellent de partout. Il y a Monsieur Justin Koulou qui est à Fungurume. Monsieur Koulou, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Merci, bonjour Monsieur Tati Mapoukou et bonjour aussi à nos deux invités.
On vous donne la parole.
Merci, je partage l'expérience du parc national de Bupemba avec des stations Lushinga et Kayo. À Lushinga, il n'y a pas de problème. Le problème se trouve à Kayo, à côté de Lubudi et Buyofwe. Là où j'avais assisté un jour, les éléments de l'ICSN qui étaient venus et avaient convoqué la population, sonder et savoir l'importance du parc à la population. La population ne savait rien. Et ensuite, il y a toujours eu des conflits qui semblent être des pièges des gardes de chasse, puisque les paysans ne savent pas où se limite le parc. Et parfois, en voulant chercher, je ne sais pas, des gibiers à manger, ils traversent pour se retrouver dans le parc. La limite aussi cause problème. Je vais demander à nos deux invités. Il y a quelques signifie domaine de chasse et quelles sont les obligations et les contraintes dans les domaines de chasse. Et en plus, là de l'autre côté, il n'y a pas les intrants. Donc les chiens se font par surbrûlis. S'ils cultivent 3 ans, ils doivent mettre la terre en jachère. Et pour mettre la terre en jachère, il doit chercher encore d'autres endroits. Son enfant, son fils, son beau-père, son oncle, les venins et tout consort. Donc nous nous retrouvons par manque d'espace à cultiver. Nous allons maintenant attaquer la parc. Et la parc que nous ne connaissons pas les limites. Il y a à boire et à manger, les torchons brillent du côté Lubudi, Buyofwe, Luena, de l'autre côté là. Alors nos deux invités se mettent autour d'une table que les limites ne soient pas les attrape-nigauds pour la population du monde avoisinant. Et peut-être une question de curiosité, comment se paye l'oxygène que les nationaux, ils payent comment? Parce qu'avec les aires protégées, il n'y a pas seulement à conserver les arbres et les animaux. Il y a aussi à produire avec la photosynthèse et la fonction chlorophyllienne, nous avons l'oxygène. Et comment on paye cet oxygène? L'argent entre dans quel compte? Et c'est pendant combien de temps qu'on qu'on paye, on calcule cela.
Oui, mais je pense que ça entre dans le cadre du processus de monétisation des crédits carbone. Le prof aura le temps de nous donner des plus amples détails sur votre préoccupation. Merci beaucoup, Monsieur Nkoulou. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Cette fois-ci, on donne la parole à Monsieur Roger, qui intervient depuis la ville de Kinshasa. Bonjour. Monsieur Roger Marcel, on vous écoute. Il y a beaucoup de bruit là où se trouve Monsieur Roger Marcel. Nous donnons la parole à Monsieur Dixon. Cette fois-ci, il est à Lubumbashi. On retourne à Lubumbashi. Monsieur Dixon, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, Monsieur Tati, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi et aussi aux journalistes d'investigation qui interviennent à partir de Beni. Merci beaucoup. Le problème aussi des aires protégées, ce n'est pas seulement les populations riviennes qui envahissent le parc et les aires protégées en République démocratique du Congo. Je dis Katanga où nous vivons aujourd'hui, nous avons un problème sérieux, c'est le minerai, des carrés miniers. Vous allez vous retrouver qu'il y a des carrés miniers qui sont distribués dans des parcs nationaux. Mais comme les parcs sont vastes, et c'est très difficile. Vous voyez, l'État aussi a une part de responsabilité dans toutes ces choses-là. Et récemment, j'ai eu à entendre que dans le parc Virunga, d'ailleurs, on a eu à découvrir là-bas des énergies fossiles, quelque chose comme ça. Et si un jour l'État arrivait à exploiter ces histoires-là, que leur protéger, que par les riverains, non, notre gouvernement, notre gouvernement, c'est une part de responsabilité en ça. J'ai aimé aussi l'intervention du journaliste d'investigation que vous avez appelé à partir de Beni, qui dit qu'il faut assister et délimiter le parc suite à l'insécurité qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, mettre une zone militarisée. Cela s'est déjà fait dans d'autres cieux. Si on l'appliquait ici, moi je ne vois pas un péché. On ne peut pas prendre une solution qui a été, un parc qui a été érigé depuis 1925, Monsieur Tati, et jusqu'à aujourd'hui, avec les réalités actuelles, je peux dire, on laisse ce parc-là avec une étendue qu'il y a. Tant qu'il y a l'insécurité, le parc, les populations riveraines qui devaient aider, par exemple, aux guides touristiques, suite à l'insécurité, ils ne gagnent rien sur ce parc. Et que voulez-vous que ces populations-là fassent, Monsieur Tati? Je voulais intervenir d'abord sur les carrés miniers qu'on distribue dans des parcs comme le parc de Boupemba, qui est mon prédécesseur, vient de vous dire là. Il y a des carrés miniers dans ces parcs-là, des pierres précieuses qu'on exploite dans des parcs comme le parc de Boupemba. Il y a des carrés miniers dans tous ces parcs-là.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Lubumbashi, Monsieur Mbayo. Merci d'avoir été avec nous dans Capi Service. Professeur, comment répondez-vous à nos deux auditeurs de la ville de Lubumbashi? Le premier a fait allusion, il a voulu savoir au fait qu'est-ce que ça veut dire les domaines de chasse et sur quelle fréquence la population peut aller prélever les ressources dans un domaine de chasse. Et puis le deuxième qui parle des activités illicites qui sont réalisées dans nos aires protégées.
Ok. Je commence par les domaines de chasse. Vous savez, les domaines de chasse, c'est aussi une aire protégée dans lesquelles il y a des études qui sont réalisées avant d'autoriser l'abattage, par exemple, de tel groupe d'individus appartenant à telle espèce. Des études doivent être réalisées pour savoir la dynamique des populations de cette espèce-là. Okay. On va savoir, nous avons combien d'individus vivent. Vous voyez, c'est sur base de ça qu'on organise ces chasses-là. C'est pas seulement parce que c'est un domaine de chasse qu'on doit entrer à tout moment, non. Il y a des périodes qu'on doit pouvoir organiser. On va dire, par exemple, vous allez ici, c'est, par exemple, c'est des antilopes ou de je sais pas moi de quelle taille, mais de quel âge, parce qu'on connaît déjà leur âge. On va dire, c'est ce groupe-là que vous devez abattre, et non tous les individus, parce qu'à un certain moment, les capitales fourmis qu'on risque de les perdre. On abat, mais tout en préservant les capitales fauniques. Comme ça, on fait ça dans vraiment de manière durable. Voyez.
Oui.
Et par rapport à cette question d'activité autour des aires protégées, il y a vraiment une très grande problématique aujourd'hui parce que j'ai comme l'impression, comme je l'ai dit déjà au début, la conservation est devenue comme un enfant de parents pauvres. N'est-ce pas? Donc, on accorde, par exemple, l'autorisation d'exploitation minière à des étendues qui sont déjà dans la réserve. Vous voyez? Et ça pose des vrais problèmes. Parce que quand vous exploitez de l'or, par exemple, c'est ça que beaucoup de gens semblent ignorer. Quand vous exploitez de l'or et vous utilisez le mercure, par exemple, pour l'amalgame, vous ne savez pas les dégâts que cela cause. Vous voyez?
Oui.
Vous faites l'amalgame et le mercure, c'est un métal liquide et ce sont des métaux lourds. Et ce sont toutes les espèces qui sont dans ces milieux-là, dans ces cours d'eau-là, qui vont en partir. Et malheureusement, les métabolismes, voilà. Et malheureusement, les métabolismes de ce type de métaux lourds ne se fait pas. Et au final, c'est l'homme qui prend ça. Vous, ce sont les poissons qui ont d'abord ingéré, etc. Et au final, c'est l'homme qui les fait. Vous savez, à l'époque, il y avait les DDT qu'on déversait sur toutes les villes ici pour tuer les moustiques. Je crois que, à l'époque, belle, c'est ça qui se faisait.
Oui.
Mais à un certain moment, on s'est rendu compte que ce sont des produits qui sont non biodégradables. Enfin, qui ne se métabolisent pas. OK? Et ça s'accumule. Il y a la bioaccumulation qui s'est faite dans des organismes. Or, au final, c'est l'homme qui finit par consommer tous ces organismes-là. Et donc, vous voyez que lorsqu'on essaie de superposer ces activités, ça marche pas avec la conservation de la biodiversité. Il est toujours dit dans les émissions ici, les animaux aiment vivre dans la quiétude. Lorsqu'il y a beaucoup de bruit autour, ça va impacter la reproduction de ces animaux. Au final, les capitales fauniques va diminuer et on aura tout perdu. C'est comme ça qu'il dit qu'il est vraiment important de faire d'abord des études pour arriver à produire des solutions durables par rapport à tout ce que... Je voudrais revenir ici vraiment sur ce que j'avais dit, malheureusement ça passait pas bien, l'idée de notre collègue de Nord Kivu est désaffecter une partie. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que si on ose le faire pour le parc de Villa, de Virunga, je vais dire...
Ça sera le cas pour d'autres aussi, ça va impacter sur d'autres aires protégées aussi.
Oui, ça sera un très mauvais précédent. Parce que sur toute l'étendue du pays, ce problème se pose. Comme ce problème se pose, si on fait déjà là-bas, ce sera un très mauvais précédent. Sur toute l'étendue, toutes les communautés vont pouvoir réclamer ça. Or, il y a encore des solutions intermédiaires qui peuvent résoudre les choses de manière durable. Nous avons parlé ici, apprendre aux communautés, l'agriculture durable, utiliser les corps PPM, une structure qui avait été créée, rendre cette structure opérationnelle dans des parcs. On peut résoudre, mais aussi, la sécurité, parce que l'écotourisme ne peut être réalisé que dans un milieu sécurisé, autrement ce sera difficile. Mais croire qu'au jour d'aujourd'hui, il faut désaffecter les sites, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que ces aires protégées, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de services écosystémiques que nous profitons de ces aires protégées. Donc à mon avis, cette solution me semble vraiment pas la bonne. Voilà.
Professeur Amundala Drazo, nous disons merci d'avoir été avec nous dans cette deuxième tranche d'Okapi Service. Elle était impartie à l'émission presque consommée. Nous profitons de l'occasion également pour dire merci au journaliste d'investigation Hervé Mukulu qui a intervenu depuis la ville de Butembo. Il a eu à réaliser un grand reportage par rapport au développement du quartier Congo-Yassika à Beni, non loin du parc national de Virunga. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine occasion.
Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste.
C'est par ici que prend fin Okapi Service que vous a présenté Tati Mapoukou sous la supervision de Jean-Marc Matouaki grâce à un vœu Zolo à réaliser cette émission et Willem Lungamba était à la prise des sons. Le rendez-vous est pris pour le lundi prochain pour un nouveau numéro du magazine Okapi Service. Excellent début de week-end à tous.